à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Chers auditeurs, bonjour. Je reçois aujourd'hui Régine Merle. Régine Merle, bonjour.
Bonjour.
Régine Merle, on vous connaît bien dans cette maison parce que vous y êtes souvent intervenue, mais ce qu'on connaît moins de vous, c'est peut-être votre parcours spirituel. Et j'ai trouvé que donner le témoignage de votre chemin de vie, de votre chemin dans l'Église, était peut-être une façon de témoigner, comme j'aime mal faire dans cette émission, de l'engagement d'un certain nombre de laïcs dans leur foi et dans le fait de porter la parole du Christ, le message des évangiles. Donc, permettez d'abord que je vous présente. Vous êtes d'une famille toulousaine bien connue, mais vous êtes avocate en droit du travail. J'aurais dû dire d'ailleurs une famille de juristes, parce que c'est vrai qu'il y a un peu des dynasties comme ça. Donc, vous êtes avocate en droit du travail. Vous avez exercé ce métier pendant une dizaine d'années. Et puis, un jour, vous avez 4 enfants et vous décidez finalement de passer davantage de temps avec vos enfants. Et donc, vous arrêtez pendant un temps de travailler en tant qu'avocate. Et les années passant, vous reprenez des études à l'Institut d'études religieuses et pastorales. Et dans cet institut, vous étudiez en particulier la théologie, l'exégèse durant une vingtaine d'années. Je crois que ça fait partie intégrante de votre chemin de vie. Et parallèlement à ça, évidemment, vous avez un certain nombre d'engagements qui sont portés sans doute par votre foi ou par votre humanisme, tout simplement, qui est en particulier que vous accompagnez des personnes en fin de vie auprès d'une association de soins palliatifs, puis auprès de la pastorale de la santé. Vous allez faire de l'animation liturgique dans votre secteur paroissial. Vous animez des groupes de prière. Et quand je dis vous animer, c'est au présent, c'est-à-dire que vous continuez à le faire. Vous participez également à la vie du comité de Toulouse pour le pèlerinage national de Lourdes, qui est quelque chose qui revient à période régulière dans votre existence. Et puis, de façon assez générale, vous accompagnez des personnes en difficulté chaque fois que l'occasion se présente. Donc, on peut dire que vous êtes quelqu'un d'engagé et qui fait vivre ce message qui est celui du fait d'aimer son prochain, qui est typiquement le message de notre foi chrétienne. Alors, j'ai sûrement oublié un certain nombre de choses, mais je crois que ça vous décrit à grands traits. Je ne sais pas si vous auriez retrouvé.
C'est tout à fait bien.
Bon. Donc, si vous le voulez, on va parler d'une chose qui intéressera, je pense, particulièrement nos auditeurs. C'est votre rencontre avec le Christ, parce que vous faites partie de ces personnes, et il y en a finalement un certain nombre, qui, comme Pascal, comme Claudel, comme plus récemment Éric-Emmanuel Schmitt, peuvent dire qu'à un moment dans leur vie, il y a une nuit de feu, comme l'appelle Emmanuel Schmitt, une nuit d'extase, comme l'appelle Claudel ou Pascal. Donc racontez-nous, qu'est-ce qui vous est arrivé, vous ?
Alors pour moi, ça serait plutôt une après-midi de lumière. J'étais à Lourdes, et lieu par excellence, terre de guérison, depuis un certain nombre d'années, puisque j'y vais depuis mes 17 ans. Je devais à l'époque avoir une trentaine d'années, j'avais déjà deux enfants, et j'allais servir comme hospitalière pour une semaine auprès de nos amis malades ou handicapés. Et dans cette répétition annuelle que vous avez évoquée tout à l'heure, j'avais l'impression, en arrivant à Lourdes cette année-là, d'être un peu comme un métronome, de connaître le déroulement des choses, de savoir par avance quelle serait ma mission, ce que j'allais faire, comment j'allais la vivre. Et j'avais une sorte de vide intérieur qui m'a poussée à me rendre à une adoration qui avait lieu dans une chapelle proche de la chambre des personnes que nous accompagnions. Et je me suis dit, je vais prendre un temps de prière dans cette chapelle qui était évidemment éminemment silencieuse. Et en m'agenouillant devant le Saint-Sacrement, j'ai ressenti encore plus ce vide intérieur et j'ai eu une espèce de cri en moi, de cri silencieux, où je me suis adressée au Christ en lui disant « Écoute, voilà, ça fait peut-être maintenant 15 ans que je suis présente à Lourdes. En fait, j'ai l'impression d'une mascarade. Je suis là, physiquement, mais je ne ressens rien. Et je vais accomplir la mission, je vais servir, mais dans une sorte de désert. » De désert intérieur, de désert spirituel. Et j'ai quitté cette chapelle pour me rendre à la grotte. Et alors là, il y a quand même, le Seigneur a beaucoup d'humour, parce que le moment où j'ai ressenti ce qui m'est arrivé n'était pas à la grotte, c'était en chemin.
C'était entre la chapelle et la grotte.
Oui, au pied de la basilique. Là où il y a une espèce de croisement
des gens qui vont vers la grotte,
exactement.
Oui, qui reviennent. Oui.
Et je me souviens que j'étais au pied de l'escalier qui monte à la basilique. Et là, le temps s'est arrêté. Tout simplement parce que je me suis retrouvée en face de quelqu'un qui n'était pas visible de façon humaine, mais d'une présence, d'une personne.
Vous avez senti une présence.
Une présence, et plus que ça, j'étais surtout inondée d'amour au moment de cette rencontre, et je n'étais plus physiquement présente à moi-même, j'étais dans un bain d'amour que cette rencontre me permettait de vivre, alors que je ne savais pas quelle
était... Au milieu de la foule.
Au pied des marches, je me souviens très bien de l'endroit où je me suis arrêtée, et après, je ne sais pas combien de temps cela a duré, je ne sais pas ce qui s'est passé autour de moi, je ressentais que la foule passait, mais je ne voyais plus les personnes, j'étais vraiment dans un bain d'amour, dans quelque chose qui me dépassait et qui me faisait vivre intensément comme jamais je n'ai vécu. Autrement dit, je n'étais pas moi-même. Et à ce moment-là, j'étais plus que jamais moi-même. J'étais absolument dans une plénitude. Alors, ce qui est vraiment...
Un instant d'éternité.
Un instant d'éternité très contrasté par rapport au vide précédent, où là, j'étais dans la plénitude et dans ce sentiment d'absolu, bien que je ne sois pas certaine encore aujourd'hui que cet absolu soit l'absolu qui nous attend. Autrement dit... C'était un absolu que j'étais capable de vivre. Mais je pense qu'il était encore plus infini que ce que j'en ai perçu. Je pense quand, dans la Bible, il est dit « on ne peut pas voir Dieu sans mourir », qu'il y a quelque chose de cela, non pas de mort au sens d'inexistence, mais au contraire, d'un tel surplus d'existence que l'on ne peut plus vivre ce que
on
l'on
dépasse
vit
soi-même.
C'est ça. Il y a un dépassement de tout. Et ce que j'ai ressenti là...
Je trouve que le terme d'éternité, au fond, dit bien ce qu'il est. C'est-à-dire, c'est vous avez vécu un moment hors du temps.
Oui, un moment d'extase hors du temps.
Ouais.
Indéfinissable avec nos mots, parce qu'il dépasse nos limites langagières, il dépasse nos limites sensitives, il dépasse nos limites humaines. C'est une rencontre qui est venu à moi et que je...
Comme si vous étiez dans un autre espace.
Dans un autre espace, tout en étant bien consciente que l'espace dans lequel j'étais était tout autant concerné que ce que je vivais moi. Ce qui m'était révélé s'adressait au monde entier, à
et alors,
toute personne.
Alors, Madame Merle, je comprends tout à fait ça, parce que, au fond, c'est... plus ou moins ce que décrit Pascal dans sa nuit d'extase, que décrit Claudel, etc. Ils décrivent tous à peu près la même chose, c'est-à-dire de moments hors du temps. Ils éprouvent certaines fois, c'est vrai pour Éric Emmanuel Schmitt, c'est vrai pour Pascal, de prendre des notes juste à la sortie pour être sûr de pouvoir remettre dans le temps ce moment extraordinaire. Mais vous, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que votre vie, ça vous a donné un nouveau regard? Est-ce que ça vous a donné de nouveaux engagements? Quid?
Alors, immédiatement après, il y a quelque chose quand même qui est très important, c'est qu'au moment où c'est arrivé, je pense à Moïse ou à tous ceux qui ont été touchés aussi dans l'Ancien Testament ou à Saint Paul, il y a toujours des objections. C'est-à-dire que lorsque j'ai réalisé ce qui se passait, enfin réalisé, c'est un mot bien prétentieux.
Lorsque vous êtes redescendu sur Terre,
Non, au moment même, regardé l'indignité de ma vie. J'ai regardé l'indignité de ma personne.
Ah ouais.
Et donc j'ai offert cette objection, cette résistance au Seigneur en lui disant, et j'ai senti cet appel à l'avenir, cet appel à regarder devant avec cette certitude qu'il savait tout, que je n'avais pas besoin d'énoncer tous les travers de mon existence, que tout cela était derrière et que ce qu'il m'invitait à vivre, c'était cette pure confiance dans ce qui allait se dérouler devant moi, dans cet avenir qui m'attendait, dans cette présence infiniment aimante. Je n'ai jamais su ce que c'était aimer avant cette rencontre et je ne le sais toujours pas à ma petite mesure. C'est-à-dire que j'apprends constamment à découvrir ce qu'est l'amour. En revanche, j'ai eu cette grâce de recevoir ce témoignage de l'amour tout puissant.
De l'amour tout puissant.
Tout puissant.
Parce que malheureusement, il va falloir qu'on arrête notre interview, le temps passe trop vite, mais est-ce que vos engagements, il y avait des engagements avant, puisque vous étiez à Lourdes pour aider les autres, etc. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça a renforcé un engagement ou pas?
Ça a renforcé mes engagements dans la mesure où mon regard sur l'autre, pas tellement dans ce que moi je fais, pas tellement dans les actes. En revanche, mon regard sur l'autre est beaucoup plus plein d'espérance, parce que je sais que la personne que je vois est aussi aimée que ce que j'ai perçu. Autrement dit, mon regard sur l'autre a complètement été bouleversé. Toute personne est aimée comme cela. Et ça change tout. Ça change tout parce qu'il y a une espérance qui se crée, quelle que soit la vie de la personne, qu'elle soit, je ne sais pas, dans des addictions impossibles, dans des tourments profonds qui vraiment ébranlent toute sa vie. Je me dis qu'il y a toujours cet amour qui l'attend, qu'il n'est pas réservé à certains, que ce n'est pas parce que certains en ont eu la manifestation, une sorte d'épiphanie, que d'autres en seraient privés, mais qu'elle se manifeste différemment, qu'il y a quelque chose de très pédagogique pour chacun et que chacun de nous, nous sommes concernés.
Eh bien, Madame Merle, puisqu'on va très prochainement être dans le moment de Pentecôte, de l'épiphanie, je trouve que c'est une très bonne transition pour conclure ce premier entretien. Vous avez, comme les apôtres, à un moment été touché par l'amour infini de Dieu et ça a guidé vos pas ensuite. Je trouve que c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup.
Merci.